Chapitre 8. Chez Freddy et Madeleine, la venue du bébé occupait les pensées de tous. Assis sur une chaise droite près de la porte principale, Émile lança un regard envieux vers son employeur, qui agrippa sa casquette accrochée au mur avant d'ouvrir la porte de la maison pour sortir. « Je me dépêche d'aller prévenir Joséphine et Lucienne qu'elles doivent s'en venir au plus vite », lança Freddy. « Ça presse pas tant que ça. Le vrai travail de ta femme commencera pas avant des heures », répondit Palmyre, à moitié penché sur le comptoir pour éplucher trois pommes afin de les faire revenir dans le sirop. « J'aime mieux prévenir, tout d'un coup qu'elles sont pas chez elles », cria le futur père en refermant la porte. La femme âgée sourit, en songeant que Freddy avait surtout besoin de s'éloigner. Elle connaissait bien le mari de sa petite fille. En sortant de la maison, l'homme regarda vers le ciel encore clair et soupira profondément. Il allait être père. Fébrile, il fouilla dans la poche de son pantalon pour prendre une cigarette et grogna en réalisant qu'il avait laissé son paquet dans la chambre. Il se tourna pour jeter un regard vers la fenêtre au volet gris du deuxième étage et hésita. « Je peux bien m'en passer », murmura-t-il lâchement, en se mettant en marche. Après un premier arrêt chez Lucienne, qui lui promit de se rendre au chevet de Madeleine dès sa vaisselle terminée, il fila en vitesse vers le rang Casseau de l'autre côté de la côte du Sureau. La petite cabane de bois de la sage-femme était érigée sur la butte surplombant la mer. Depuis un an, une infirmière s'était installée au village et devait, en principe, être avisée lorsqu'une délivrance s'annonçait. Mais comme la plupart des villageois, le jeune couple n'avait pas l'intention de faire confiance à une étrangère. Joséphine assura à Freddy qu'elle rejoindrait Madeleine dès qu'elle aurait fini son thé. « Mais ce serait important de pas tarder, hein, Joséphine? » La sage-femme d'un âge indéfini rigola un peu devant la nervosité évidente de Freddy. Elle tapota son bras en se penchant vers l'avant sur le seuil de sa maisonnette. « La nuit va être longue, le jeune. Je vais prendre le temps de finir ma boisson, » répéta-t-elle. « Inquiète-toi pas, j'en ai vu d'autres. Oublie pas que je t'ai mis au monde. » Les longs cheveux gris de la femme maigre retombaient sur ses omoplates osseuses. Ce côté sec qui la caractérisait disparaissait complètement, semblait-il, lorsqu'elle accouchait les villageoises. Du moins, c'est la rumeur qui courait dans les environs. Freddy eut envie d'insister, mais la sage-femme referma la porte de son logis sans plus attendre. Il fit la moue en laissant ses yeux voguer au loin dans la baie. « Sa vie ne serait plus jamais la même, » songea-t-il, avec l'espoir que tout se déroule parfaitement. Il marcha vers la mer et fixa un bateau qui longeait l'île Bonaventure. Visage au vent, Freddy formula le souhait d'être un bon père, meilleur que le sien, qui avait eu la main leste auprès de ses enfants. Après quelques minutes, craignant que Joséphine ne vienne le houspiller pour qu'il quitte son terrain, il décida de poursuivre sa route jusqu'au magasin général. « Je pense que je vais aller téléphoner à Clémence. Il faut qu'elle s'en vienne pour le baptême. Si le bébé arrive demain, on va faire ça lundi au plus tard. Va quand même falloir qu'elle s'arrange pour y être. Ça va toujours bien être sa marraine à ce petit-là. » Heureux d'avoir une raison pour éviter de retourner chez lui tout de suite, Freddy continua sur le chemin principal. Il marchait les épaules redressées, comme si tout d'un coup, ce qui se passait dans sa chambre à coucher en faisait un homme plus important. Quand il ouvrit la porte du magasin Taillefer, les quelques clients qui traînaient là le saluèrent de la main avant de reprendre leur conversation. L'homme s'avança vers le comptoir et Girola, occupé à compter l'argent de sa caisse enregistreuse, leva un index pour lui demander d'attendre. « Bon, Freddy! » s'exclama-t-il enfin. « De quoi t'as besoin pour être ici à l'heure du souper? Il manque de la farine à ta femme, du sucre pour ton thé, du tabac? » Le jeune châtain déposa les billets de banque dans une enveloppe, sans se soucier de les cacher à la vue des quelques villageois présents. La confiance régnait à Lens-à-la-Joie. Freddy se redressa et parla d'une voix bien forte. « D'abord un paquet de turettes, puis si je pouvais faire un appel, ce serait bien utile. » Le marchand hocha la tête. Il se retourna pour agripper les cigarettes demandées sur l'étagère derrière lui. « Je mets ça sur ta note. Pour le téléphone, papa commence à trouver que le monde ambitionne. C'est pas parce qu'on est les seuls à l'avoir au village que ça donne le droit de l'utiliser comme bon vous semble. Ça fait qu'à cette heure, c'est 2 cents par appel. 2 cents? 5 crèmes, vous niaisez pas? » Freddy fouilla ses poches en sachant fort bien qu'elles étaient vides. Il n'avait jamais d'argent sur lui. « Il haussa le ton pour dire « Même si c'est pour annoncer une bonne nouvelle à Clémence? » « Quelle bonne nouvelle! » cria Mathias, l'idiot du village, en s'avançant vers les hommes, en sautillant et en postillonnant. Freddy essaya de reculer, mais le trentenaire Rougeau mit ses mains sur les épaules du jeune pêcheur. Mathias Gagné était arrivé à Lance à la Joie un matin, 10 ans plus tôt, pour ne jamais en repartir. Les villageois avaient émis toutes sortes d'hypothèses sur le compte de cet homme simplet. Il venait de la grande ville, c'était le fils illégitime de quelqu'un dans les environs, il avait de l'argent caché quelque part. Le prenant en pitié, la famille du charpentier Joseph Tremblay l'hébergeait depuis tout ce temps, dans une petite cabane à l'extrémité du village. Certains croyaient que ce qu'ils disaient ou faisaient pouvait permettre à Mathias de changer leur destinée, et ils se tenaient donc loin de lui. « Surtout, insultez-le pas !» chuchotaient les villageoises à leur progéniture. « Il faudrait pas qu'ils vous jettent des sorts !» Comme pour les quêteux, les gens craignaient les pouvoirs que pouvait détenir le niais. Il y a longtemps, Palmyre avait même expliqué à ses petites filles qu'un jour, alors qu'elle était enfant, une de ses sœurs s'était moquée d'un mendiant. Celui-ci s'était fâché en disant « Toi, ma petite, tu mérites d'avoir des poux !» On s'est sauvés en courant et en riant, avait raconté la grand-mère. Mais le soir venu, quand maman avait passé un peigne dans les cheveux de ma sœur, elle s'était aperçue qu'elle en avait plein la tête. C'est la vérité, ma fille. Après ça, je peux te dire qu'on s'est plus jamais moqué d'un miséreux. Quand Palmyre avait appris que Mathias Gagné était arrivé au village, elle avait tout de suite conseillé aux trois sœurs de se tenir loin du gaillard. Celui-ci rendait certaines personnes mal à l'aise avec cette manie qu'il avait de s'approcher trop près des gens. Freddy était l'une de celles-ci. Toujours soucieux de son allure, le mari de Madeleine n'aimait pas les individus qui se sentaient mauvais ou qui avaient une tenue négligée. Les deux attributs convenaient à Mathias. « Moi, ça me rentre pas dans la tête qu'un gars se laisse aller de même », précisait Freddy en l'évitant le plus possible. Freddy était habitué à l'odeur du poisson perpétuel sur ses vêtements pendant la saison de pêche, mais il ne comprenait pas que les autres hommes ne soient pas aussi attentifs à leur apparence une fois leur tenue de travail retirée. Le futur père ignorait les ricanements des clients lorsqu'il passait à acheter un shampoing ou une chemise pour se gâter un peu. Freddy appréciait les quelques beaux vêtements et les rares produits spécialisés que le magasin général offrait. Retenant une grimace, il répondit en cachant son dédain sous un sourire éclatant. « La bonne nouvelle, mon Mathias, c'est que ma femme va accoucher d'ici demain », annonça-t-il fièrement, en réussissant à se déprendre de la poigne solide de l'autre homme. « C'est pas fantastique, ça? » Le nigo se dandina en frottant son entrejambe sans inhibition. Cette habitude agaçait aussi les villageois, surtout les femmes, qui ne se gênaient pas pour le réprimander sèchement. « Mathias !» cria d'ailleurs Gaston Taillefer, qui s'approchait pour féliciter Freddy. L'homme se figea aussitôt et leva les mains bien haut. Puis il reposa son regard presque translucide sur Freddy en grognant « J'aime pas ça, les bébés s'abroient tout le temps !» Mathias sortit sans plus attendre du magasin général alors que Gaston lançait avec bonne humeur. « Je t'offre l'appel téléphonique, mon Freddy. C'est une belle nouvelle, ça. Surtout pour votre famille. » Au moment où le marchand lançait cette affirmation, Géraldine Veillette mettait les pieds dans le magasin. Depuis l'événement funeste, la blonde avait choisi son camp, même si les villageois n'aimaient pas cette expression. Tous s'entendaient pour dire que la tragédie de juin 1934 était ce qu'il y avait eu de plus triste à survenir depuis longtemps à Lance à la Joie. Pourtant, on tentait de ne pas s'immiscer dans le conflit de la famille Gérard. À chacun ses défis. Plissant le front, la mère de famille tira ses jumeaux de 7 ans par la main et évita tout contact visuel avec Freddy. Girola s'était détourné pour décrocher le combiné de téléphone. Il lança gaiement sans regarder derrière lui. « Tiens, appelle la belle Clémence pour lui dire qu'elle va bientôt être ma tante, Freddy. Tu diras à Maddy qu'on va penser à elle. Un bébé, ça va mettre du baume sur votre malheur. » Géraldine resta clouée sur place alors qu'elle se dirigeait d'un bon pas vers le fond du grand magasin. Son souffle bruyant fut le seul son entendu, tandis que Gaston fronçait ses épais sourcils blancs en direction de son fils, qui leva les bras avec impuissance. « Je l'avais pas vu, » murmura-t-il. Embêté par la situation, le pauvre Freddy essuya sa main moite sur son pantalon avant de soulever le combiné que lui tendait Girola. Géraldine retint des paroles acerbes en se disant que c'était Madeleine la coupable, pas son mari. Mais de là à le féliciter pour la naissance à venir, alors elle se pressa vers les chaussures et s'entretint avec sa cousine éloignée, la jeune marchande Rosalie Taillefer, sans plus s'intéresser aux hommes à l'avant du magasin. « Les gars poussent à vue d'œil, » grogna-t-elle. « J'ai pas le choix de leur acheter des souliers pour commencer l'école. Montre-moi ce que t'as de plus solide, mais fais-moi un bon prix. Après tout, je suis de la famille. » »« Peut-être bien, Géraldine, mais oublie pas que des chaussures, c'est pas donné. On fait pas la charité quand même. Et il va falloir que tu t'arranges avec mon père pour le crédit. Il commence à trouver que votre note est pas mal longue. » La mère de famille retint une réplique acerbe concernant le coût de la marchandise vendue au village, qui semblait augmenter à chaque saison. Il faut dire que Gaston ne se gênait pas pour copier les prix des magasins appartenant à la compagnie Robin. De mauvaise foi, Géraldine ne se gêna pas pour donner une tape à son fils Gustave, qui avait enfoui son doigt au fond de sa narine. Puis elle prit le soulier brun que lui tendait Rosalie. Comme bien des villageois, Homer et elle ne réussissaient jamais à acquitter leur dette à la fin de l'année. Mais elle commenta tout de même. « Tu diras à ton père de pas s'en faire avec ça. Mon homme a une bonne saison de pêche. » mentit-elle sans vergogne. Soulagée du désintérêt de Géraldine, Freddy composa le numéro du docteur Marien à Rimouski, qui lui promit de faire part de la bonne nouvelle à Clémence. Ravi, le futur père remercia le commerçant, puis il sortit en vitesse du magasin général pour fuir la meilleure amie de Simone. Pendant ce temps, dans la cuisine de la Maison Bleue, Palmyre demandait à Émile de déposer le chaudron de chiode sur le poêle pour que tout le monde puisse manger chaud avant la tombée de la nuit. Satisfaite, la vieille femme s'étira pour saisir les bols sur la tablette à gauche de l'évier. L'odeur qui émanait de la grosse marmite remplie entre autres de lard salé, de nove et de langue de morue mettait l'eau à la bouche. S'approchant lentement du poêle, Palmyre compléta le plat en y jetant des pommes de terre, du navet, du lait et un généreux morceau de beurre. « Savais-tu, le jeune, que ma mère faisait la meilleure chiode de la Gaspésie? » demanda Palmyre sans attendre de réponse à sa question. « Tu m'en donneras des nouvelles. Il me reste juste à lier tout ça et on va se régaler. Mais on va manger notre soupe avant. » L'aïeul tourna son visage plissé vers Émile. Même si celui-ci salivait d'avance, il aurait préféré ne pas se trouver dans la maison au moment où Madeleine verrait son travail devenir plus intense. Alors il tenta de s'éclipser. Je voudrais pas déranger Madeleine, je pourrais peut-être aller manger à l'auberge à la place, suggéra donc le jeune homme. Cependant, Palmyre ne l'entendait pas ainsi, et elle leva son gros couteau dans les airs en direction du jeune blond. Voyons donc, quelle idée d'aller dépenser de l'argent pour du manger bien ordinaire. On en a quand même pour un bon moment ici avant que le vrai travail se mette en branle. Fie tout sur moi. C'est son premier bébé à la petite, et on lui verra pas le bout du nez avant demain certain, précisa la vieille au mouvement plus vif que jamais. L'homme engagé hocha la tête devant le discours de Palmyre. L'octogénaire était tout à coup moins courbé devant le comptoir. Ses cheveux blancs, tressés en une natte fine comme une ficelle, reposaient entre ses omoplates. Comme toujours, elle portait une veste de laine par-dessus sa robe bleu foncé. Palmyre avait toujours froid, même en plein été. « Ça fait que tu vas prendre le temps de manger. Dans 30 minutes, le repas va être prêt. Assieds-toi donc, jeune, tu me donnes le tournis à te promener de même autour de la table. Commence ta soupe en attendant. » Émile s'installa sans un autre mot devant le bol de soupe aux légumes que Palmyre déposa devant lui. C'est avec un profond soulagement qu'il vit enfin Freddy entrer dans la maison, une 20aine de minutes plus tard. Ce dernier lança un regard désabusé vers le potage qu'il devrait avaler. Le mercure en ce 17 août avoisinait les 95 degrés Fahrenheit, mais la grand-mère n'hésitait jamais à servir une telle entrée. « Une bonne soupe, ça ravigote son homme », avait coutume de dire Palmyre 12 mois par année. Cachant sa déconvenue sous un air neutre, Freddy s'avança pour prendre un bout de pain sur la table. « Bon, » lança-t-il, « les femmes sont avisées. » « Comment va, Maddie? »« Ça a l'air d'aller, mais tu ferais mieux d'aller la voir, » répondit Palmyre. « Après, tu viendras t'asseoir avec nous autres. Je vous ai préparé un bon repas. »« Oui, je vois ça. Mais j'ai pas trop faim, grand-mère. Je vais peut-être sauter la soupe ce soir. »« Pas du tout. Tu parles d'une idée. Il faut que tu sois en forme au cas où... » C'est pas le temps de manger comme une fillette, mon gars. » Freddy se détourna en levant les yeux au plafond et s'avança vers l'escalier. Il arrêta son mouvement et revint vers Palmyre pour l'entourer de son bras, le visage enflammé. « Grand mes mères, pouvez-vous croire que je vais être papa bientôt? C'est pas merveilleux, ça? » »« Oui, oui, merveilleux. » La vieille tapota de sa main tremblotante la joue rugueuse du mari de sa petite-fille. Elle l'aimait comme son propre enfant, celui-là aussi. Attristée par l'absence de Simone auprès de sa sœur, Palmyre se fit la réflexion que leur relation était peut-être brisée pour toujours. Jamais elle n'aurait cru cela possible, songea-t-elle en soupirant. Freddy pointa le chaudron de fonte sur le dessus du gros poêle à bois et s'exclama « Je pense à ça, grand-mère. Il faudrait pas préparer une assiette pour Maddie. Me semble qu'elle va avoir faim. Non, mon gars. C'est bien plate, mais c'est mieux qu'elle reste l'estomac vide, sinon... » Palmyre tut ses pensées. Ce n'étaient pas des affaires dont il convenait de discuter avec un homme. Ce qui se passait dans la chambre d'une accouchée ne concernait qu'elle et les femmes qui la soutenaient. Alors elle repoussa affectueusement le futur père qui avait grimacé en imaginant la suite des paroles de la vieille grand-mère. « Allez, dépêche-toi un peu. Après, tu viendras manger avant de te sauver pour la durée du travail. » Freddy ne se le fit pas dire deux fois et grimpa donc l'escalier, trois marches à la fois. Il allait être papa. Une dizaine de minutes plus tard, le jeune homme s'installait à la table en essayant d'oublier la pâleur du visage de Madeleine lorsqu'il avait quitté la chambre. Après tout, elle n'était pas la première femme à passer par là. Palmyre servit les hommes, qui engloutirent leur plat de morue rapidement. Les deux avaient hâte de fuir la maison, et aussitôt la dernière bouchée avalée, Émile se leva en roulant les manches de sa chemise. Cigarette au bec, il prit le baluchon qu'il avait déposé sur la table près de la porte de la maison et ouvrit cette dernière avec soulagement. Il allait s'installer dans la baraque sur la grave, où un lit de camp était monté en permanence. Pour une nuit, il s'en contenterait. « Je reviendrai après », annonça Émile en songeant à ce qui se déroulerait à l'étage pendant son absence. Même si Freddy aurait préféré que le jeune homme demeure avec lui dans la cabane à l'arrière de la maison, il se voyait mal insister auprès de l'engagé, surtout que ce dernier n'était pas de la famille. Des plans pour qu'il soit obligé de le payer un peu plus. Déjà que le salaire qu'il donnait à Émile faisait un trou dans son budget, il n'avait pas l'intention de sortir un sou de plus de sa poche. Il le regarda donc s'éloigner sur le rang Soriole avec envie. Puis, sous les signes de la main de Palmyre, il sortit à son tour par la porte de côté. Il avait déjà un lit de fortune dans son abri temporaire. Ne restait plus qu'à y apporter une bouteille de remontant, des cigarettes et une couverture. Les heures à venir seraient pénibles pour tout le monde, songea Freddy en contournant la maison et en se disant qu'il aurait bien aimé avoir quelqu'un pour lui tenir compagnie, afin d'éviter de penser à ce que vivait sa femme. J'espère bien que Lucienne et Joséphine vont arriver bientôt. C'est pas grand-mère qui va pouvoir mettre mon bébé au monde. Dès que les hommes furent sortis, Palmyre inspira longuement pour aider son corps à se détendre. L'octogénaire réalisait que la naissance imminente l'inquiétait plus qu'elle n'avait voulu le laisser paraître. Elle joignit donc ses mains pour prier le Seigneur. Sa jeune Madeleine avait amplement souffert depuis le mois de juin et l'aïeul appréhendait la nuit à venir. Bien sûr, les femmes accouchaient depuis la nuit des temps, mais il n'en demeurait pas moins qu'elle-même avait perdu deux bébés à la naissance. Les yeux fixés sur l'église qu'elle voyait à travers la fenêtre au-dessus du comptoir de la cuisine, Palmyre murmura ses souhaits. Au bout d'un moment, elle baissa la croix en or qu'elle portait au cou et retrouva son optimisme. « Ça va bien se dérouler. Je le sens. » Comme elle ne pouvait monter à l'étage, Palmyre installa sa chaise berçante en bas des marches afin de suivre l'évolution de la situation, en attendant la sage-femme et Lucienne. Au bout d'un moment, elle cessa de se balancer, tourna la tête et cria « Tout va bien, Maddie ?» De son lit, Madeleine répondit par l'affirmative en laissant son regard filer par la fenêtre. La peur la tenaillait. La vue sur le foin doré ne l'apaisa guère. Au contraire, elle se remémora les souvenirs de son enfance alors que son frère, ses sœurs et elle travaillaient dans les champs. La nostalgie l'envahit quand elle pensa que, depuis la mort de ses parents, Freddy et elle ne s'occupaient plus du champ de patates ni de la culture du foin. Ils avaient quelques poules, deux vaches et un cochon que son mari tuait à l'automne. Quand Marcelin avait cessé d'aller en mer alors que le jeune couple venait de se fiancer, Tom avait été le premier à offrir à leur beau-père de s'occuper de sa barge en échange de morues et de quelques dizaines de dollars par mois. Déçu de ne pas y avoir songé en premier, Freddy s'était alors résigné à seconder son beau-frère. Ensuite, à la mort de Marcelin, le jeune homme avait été catégorique. « J'ai pas le temps de m'occuper des champs en plus de la pêche. Ça fait qu'on va louer la terre à mon oncle Jacques et à ses gars. » Il dit que ces jeunes ne veulent rien faire d'autre et qu'ils haïssent ça travailler pour la Robin. Ça va faire l'affaire de tout le monde. Nous autres, on laisse pas nos terres à l'abandon et eux, ils peuvent cultiver ce qu'ils veulent tant qu'ils nous payent chaque mois. Heureusement, les deux cousins dans la trentaine, Hercule et Siméon, étaient du genre discret. Ils arrivaient le matin et travaillaient jusqu'à la tombée de la nuit avant de s'éclipser sans fracas. Pour le moment, ils devaient être de l'autre côté de la colline, dans le champ de foin, parce que Madeleine ne les voyait pas. Peut-être que Freddy était allé les retrouver, mais elle espérait qu'ils ne s'éloignent pas trop de la maison. Après tout, si les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Mais Madeleine s'empêcha de suivre cette ligne de pensée, et elle appuya sa tête échevelée contre les oreillers en caressant son ventre qui durcissait au rythme des contractions. La peur qui lui nouait le corps et les yeux remplis de larmes, elle songeait à Simone, qui aurait su la rassurer. « J'ai tout gâché », murmura-t-elle en fermant les yeux. Elle se prit à rêver d'entendre sa jumelle grimper l'escalier en courant, pénétrer dans la chambre surchauffée et lui tenir la main pour cette épreuve à venir. C'est certain qu'avec son énergie et son dynamisme, sa sœur aurait réussi à la faire rire malgré les douleurs. Madeleine refusa de s'apitoyer sur son sort et se redressa dans le lit. Elle clama à voix haute « Bon, ça va faire, ma fille. Tu vas prendre sur toi et arrêter de te lamenter. Ce bébé-là, tu vas le mettre au monde comme une vraie femme, avec ou sans Simone. « Qu'est-ce qui se passe, Maddy? » s'informa aussitôt Palmyre en se relevant à moitié en jetant un coup d'œil inquiet sur la dizaine de marches. S'il fallait qu'elle les gravisse, eh bien, elle le ferait. À genoux, au pire. « Rien, rien, grand-mère. Je me donnais du courage. »« Ah, OK, c'est bon, ça. Moi, je prie. » Palmyre se rassit avec soulagement et recommença à se bercer. Lucienne arriva enfin une quarantaine de minutes après le départ des deux hommes, suivie de près par la sage-femme. Celle-ci apportait un lourd panier d'osier dans lequel se trouvaient des concoctions, des crèmes et autres onguents de son cru. Rapidement, les deux femmes montèrent une cuvette pour les eaux sales à l'étage et déposèrent sur le plancher de bois une assiette de fer blanc pour y mettre l'eau bouillante. « Comment ça va, ma fille? » questionna Lucienne en jetant un coup d'œil sur le visage pâle sans cesser de s'activer. Madeleine sourit bravement sans répondre. La voisine lui serra le bas de la jambe et ouvrit un gros sac de papier brun pour y jeter les linges souillés. Joséphine, quant à elle, installa une serviette blanche sur la petite table près du lit, quelques linges bien propres, des tampons stérilisés et deux bassines en fer. Madeleine suivait leurs gestes avec appréhension, tout en priant pour que la naissance de son bébé se déroule rapidement. Voyant la lueur d'inquiétude dans son regard, Lucienne prit place à ses côtés et tenta de l'apaiser. « T'es chanceuse, Maddy. L'ange du Seigneur a frappé à ta porte. Ça va bien aller, c'est naturel ce qui t'arrive. » Ton plus cher désir se réalisera bientôt. Tu vas devenir mère. Le but de notre vie est-il autre que celui-là? Ouch! » Madeleine ne répondit pas, se contentant de respirer bruyamment. Les deux autres femmes se mirent à discuter avec bonne humeur autour de la parturiente, alors que Palmyre, au rez-de-chaussée, joignait les mains avec ferveur. Chaque naissance demeurait un moment de réjouissance empreint d'inquiétude. Mais sa Madeleine avait des hanches faites pour enfanter, se rassura la vieille. Il n'en demeurait pas moins qu'un petit coup de main divin était toujours le bienvenu. « Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié !» chuchota sans relâche l'aïeule, qui se sentait bien impuissante.